Merci beaucoup Françoise, merci à toutes et à tous d'être venus et d'avoir, comment dirais-je, avec beaucoup de ténacité, sinon de résistance, affronté les rigueurs hivernales. Alors d'abord, comme l'usage le veut, je vous présente mes meilleurs voeux, en espérant que 2013 soit une année pleine de réalisations et peut-être aussi un peu de douceur. Ma foi, dans les temps qui courent, c'est peut-être pas inutile. Alors, cette année, je ne vous parlerai pas de genre, je ne vous parlerai pas de sexualité ou plus exactement de rapport de sexe. J'ai décidé de changer un peu, quoique, comme vous allez vous en rendre compte, mon propos est malgré tout toujours centré ou orienté sur la question de la politique, et je souhaiterais cette année engager avec vous une sorte de petit parcours autour de la question des résistances. Alors je vais consacrer cette première séance d'un cycle de 4 séances à essayer de réfléchir un petit peu sur cet énoncé que j'avais donné il y a déjà quelques mois, et comme toujours il y a le moment où on choisit l'énoncé, où on le donne parce qu'il faut l'inscrire sur un programme. Puis il y a le moment où on se met à travailler et où, évidemment, les termes du sujet se transforment un petit peu. L'intitulé général que j'avais donné à ce cycle, c'est « Qu'est-ce que résister ?» point d'interrogation, histoire du droit de résistance au XVIIe et XVIIIe siècle. Je souhaiterais donc un petit peu jeter un certain nombre de considérations pour essayer de voir un peu de quoi je vais vous parler. D'une part, il me semble que si on réfléchit un petit peu, les termes de résistance et d'obéissance appellent quelques précisions. Je dirais dans un premier temps, et ce sera mon premier point, que lorsqu'on regarde un petit peu l'histoire des sociétés, qu'elles soient primitives, pour utiliser une terminologie des anthropologues, ou qu'elles soient à histoire, pour aller vite, nos sociétés occidentales, on est obligé de constater que ces histoires, quelles qu'elles soient, sont toujours jalonnées de conflits, de guerres, de tensions, d'affrontements. Et d'une certaine manière, on pourrait presque dire que la question de la conflictualité, au sens le plus large du terme, est quelque chose qui va avec l'histoire des sociétés humaines. Une sorte de dimension quasi naturel entre guillemets, qui fait que réfléchir à l'histoire des êtres humains ou à l'histoire des sociétés, c'est aussi et encore réfléchir à la manière dont la civilisation se réalise à travers des conflits, à travers des luttes, à travers des guerres. Et il ne semble pas qu'aujourd'hui les temps aient bien changé, et si on regarde un petit peu autour de nous, eh bien on sera encore obligé de constater que la conflictualité est une donnée tout à fait actuelle. Alors, cependant, si parler de conflit, parler de lutte, c'est une chose qui va avec l'histoire des sociétés, il ne me semble pas que tous ces conflits, toutes ces luttes relèvent de ce que j'appellerai bientôt la résistance. Autrement dit, si j'engage ma réflexion au jour d'aujourd'hui sur la question de l'obéissance et de la résistance, c'est que je souhaite, à l'intérieur de cet ensemble vaste de conflits, opérer un choix, faire une sélection et m'intéresser à une catégorie bien particulière de confrontations ou de conflits. Et il me faut donc, dans un premier temps, c'est un petit peu comme dans un travail de dissertation, essayer d'opérer des discriminations et mettre au jour ce qui caractérise les propriétés spécifiques de la résistance et de l'obéissance ou de la désobéissance. Et pour le faire, il me semble tout à fait intéressant de partir, un peu comme le ferait un élève de terminale, du dictionnaire, et de voir un peu quelles sont les définitions qui nous sont données de ce qu'on appelle la résistance, et à partir de là, d'élaborer progressivement les termes de mon sujet. Alors je me suis intéressé un petit peu à ces questions, et je suis allé voir un dictionnaire que j'aime beaucoup, et qui s'appelle « Le trésor de la langue française », qui est un dictionnaire passionnant. C'est à la fois un dictionnaire sur l'histoire des mots, et évidemment notre histoire aussi, hein, puisque l'histoire des mots c'est aussi notre histoire, même si ça n'est pas que notre histoire. Et voilà la première définition que je trouve dans le trésor de la langue française. Alors, ce qui est intéressant déjà, alors ça j'ai fait un petit comparatif entre le trésor, entre le littré, d'autres dictionnaires de la langue française, et il apparaît que les premières définitions qui nous sont données de la résistance ne sont jamais des définitions qui concernent les conduites humaines. Ce sont toujours des définitions qui portent sur des éléments de la physique ou de la physiologie ou de la physique électromagnétique. Et voici donc la définition que je trouve dans le trésor de la langue française. Je la lis et ensuite je vais la commenter. Tout phénomène physique qui s'oppose à une action ou à une force, point, action de résister, capacité variable de résister, d'annuler ou de diminuer l'effet d'une force ou d'une action subie. Alors, ce qui m'intéresse ici dans cette définition, c'est évidemment que pour pouvoir définir la résistance, il faut que j'utilise une notion corrélative. Autrement dit, je ne peux pas définir la résistance comme telle. Pour pouvoir la comprendre, même dans son acception physique, je suis obligé de faire le détour par une autre notion qui est tout à fait fondamentale, qui est celle de force. Autrement dit, parler de résistance, c'est immédiatement impliquer quelque chose qui vient s'opposer. Autrement dit, quelque chose qui s'exerce dans une direction différente, opposée, et qui va venir contrer, qui va venir annihiler ou du moins tenter de réduire les effets propres de l'action soumise. Autrement dit, parler de résistance, dans ce cadre-là, je reste pour l'instant encore sur la définition de la résistance dans son acception physique, c'est évoquer un système de forces, les unes allant dans un sens, et les autres, celles de la résistance, allant dans l'autre. Ce qui me permet déjà de dire ici, toujours en commentant cette définition, que résister, c'est évidemment exercer une force. Et cette idée, elle est très importante, parce qu'on va voir qu'on va la retrouver évidemment dans l'acception qui retiendra mon attention, en tout cas sur ces séances. On peut donc supposer que la résistance, elle est un effet de système, dans le cadre de ces définitions physiques, bien évidemment, un effet de système où le jeu des forces conduit à des confrontations. Donc, voilà ce qu'on pourrait dire sur cette définition purement physique de la résistance. Alors, je pourrais passer, je ne vais pas le faire parce que vous avez compris le sens de mon propos, je pourrais quand même évoquer, parce que c'est quelque chose qui est utilisé de façon tout à fait importante dans les analyses sociologiques aujourd'hui, on parle beaucoup de champ, la notion de champ, le champ de l'économie, le champ de la politique, les champs culturels, et la notion de champ, ce qui est intéressant, c'est que justement elle va permettre de décrire des formes d'action de force à distance. Qu'est-ce qui caractérise un champ magnétique ? Ben, c'est très précisément la possibilité d'exercer une force, mais à distance, sans qu'on le voit. Je ferme la parenthèse, et voilà ce que, donc, premier point qui m'intéresse ici dans la définition de la résistance, c'est l'idée de la force, et c'est l'idée du système. Ce qui veut donc dire qu'on ne peut pas exercer une résistance si on n'a pas quelque chose contre quoi exercer cette résistance. Et ça, il faut le retenir pour la suite. Ensuite, lorsque je défile toujours le trésor de la langue française, alors je vous signale au passage, mais vous le savez probablement, vous avez un site avec les dictionnaires sur Internet qui est absolument remarquable, qui s'appelle Lexilogos, le discours sur les mots. Hein. Et vous avez toute une série de dictionnaires, dont le trésor de la langue française, dont le Littré, des dictionnaires classiques et contemporains. Et voilà la définition que je trouve lorsque je laisse défiler les définitions qui concernent la biologie, qui concernent la physiologie, etc. Et voilà la définition que je trouve ensuite. Sur le plan physique et moral, l'action de résister à une agression, une contrainte, une oppression physique ou est morale. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est d'abord, première constatation, que la définition est quasiment la même. C'est-à-dire que le dictionnaire de la langue française utilise quasiment les mêmes termes, Pour définir la résistance, lorsqu'on la prend dans son acception au sens le plus positif du terme, les sciences physiques, et pour définir une première acception de la résistance lorsqu'on s'intéresse à la conduite humaine. Mais lorsqu'on s'intéresse à la conduite humaine, en tant qu'elle implique à la fois le physique, le corps, si vous préférez, et le moral, l'âme, les représentations. Donc déjà, premier point, ce qui est intéressant ici, c'est cette transposition. Mais quand même, la définition apporte une petite nuance qui m'intéresse. Elle parle à propos de ce contre quoi on s'oppose, de l'agression, de la contrainte, de l'oppression. Trois termes ici qui désignent évidemment, si je puis dire, à la fois l'adversaire ou du moins ce contre quoi va s'exercer la résistance. Autrement dit, toujours pour commenter cette définition, dans le cas des relations humaines, eh bien, il apparaît que parler de résistance suppose premièrement quelque chose à quoi on va résister ou contre quoi on va résister. Autrement dit, ce qui tenait lieu de force dans la définition précédente va devenir, dans la définition ici retenue, contrainte, contrainte physique et contrainte morale. Ce qui veut donc dire, premièrement, que l'on ne résiste pas en général. On ne dit pas comme ça, voilà, aujourd'hui, ben, je vais résister. Ce qui veut donc dire que la conduite, l'attitude qui consiste à être en résistance ou à se mettre en résistance, elle suppose une situation, elle suppose un contexte, elle suppose des circonstances. Et on peut imaginer qu'étudier la résistance, c'est d'une certaine manière appliquer aussi un point de vue qui sera historique, et j'y reviendrai. Deuxième élément, toujours pour expliciter cette définition qui est très intéressante, les définitions des dictionnaires sont toujours très intéressantes. Elles valent même beaucoup parfois les définitions des ratiocineurs. On nous dit également qu'il y a donc dans ce système de la résistance au moins deux catégories d'acteurs. Et cette fois-ci, j'utilise le terme. Il y a d'une part celui qui exerce la contrainte, celui qui oppresse. Et je reste pour l'instant évasif sur l'identité de ce « celui ». Il y a dans mon système, d'un côté, des gens qui oppressent, ou plus exactement quelque chose, ou quelqu'un, ou une institution, ou bref, peu importe, qui agresse, qui contraint, qui oppresse, et de l'autre, celui qui va s'efforcer d'échapper, de contourner, de restreindre, ou du moins de diminuer les effets qui sont propres à ces tendances contraignantes, agressives, etc., etc. Donc, on a une première définition ici de ce que pourrait être une conduite de résistance. Cette conduite, elle s'inscrit dans un système à plusieurs acteurs. Elle suppose d'un côté l'exercice d'une force d'agression, d'une force contraignante, d'une force d'oppression, et de l'autre, elle va supposer, évidemment, des forces de réaction, des capacités à résister, des attitudes qui vont chercher à réduire ou même à s'exonérer des effets contraignants, des effets oppressifs. Je reviendrai sur le sens de ces termes tout à fait importants un peu plus loin. Voilà donc la deuxième étape dans la définition que l'on peut donner ici de ce caractère propre à la résistance quand on le considère non plus du point de vue des phénomènes physico-naturels, mais lorsqu'on s'intéresse à quelque chose qui s'apparente à des conduites humaines. Cependant, on trouve encore dans le TLF, dans le Trésor de la langue française, cette autre définition qui me semble, pour le coup, encore plus explicite, que je vais vous citer et que je vais commenter, évidemment. Voilà ce que nous dit encore le TLF à propos de la résistance. Il s'agit du refus d'accepter, du refus de subir les contraintes, violences et ou vexations jugées, je souligne, insupportables, qui sont exercées par une autorité contre une personne, les libertés individuelles ou collectives. Et toujours dans la même définition, résistance à l'abus, à l'arbitraire, à l'injustice, au mensonge, à la tyrannie, groupe, mouvement, organisation de résistance. Et toujours, une citation, il a rencontré ce matin au Conseil des ministres une résistance inattendue qui l'a contraint, le ministre, entre guillemets, à poser la question de sa démission. Premier exemple. Deuxième exemple, cette fois-ci, cet exemple est emprunté à un historien. Nobles, bourgeois, clergés même, tous approuvèrent la résistance de Philippe le Bel au pape. Le roi de France ne reconnaissait point de supérieur sur la terre. Alors je vais évidemment commenter ces différentes définitions parce qu'elles vont m'introduire, si je puis dire, dans le vif du sujet. D'abord, première remarque, ces citations, elles sont beaucoup plus explicites sur la nature des contraintes et des oppressions. On se rend compte que ceux qui exercent ces contraintes ou ces oppressions sont de différentes natures. Ce peut être un individu, un groupe d'individus, une institution, un État. Bref, on commence à identifier ici que la question de la résistance, elle implique évidemment deux catégories d'acteurs et que parmi les acteurs concernés, certains se trouvent dans la situation de pouvoir exercer un pouvoir justement important, fort. Autrement dit, et deuxième remarque, et là on rentre encore un peu plus dans le vif du sujet, s'il s'agit de résister à l'agression ou à l'oppression, c'est parce que l'on cherche à préserver quelque chose. La citation utilise deux termes qui me semblent tout à fait importants, c'est celui de liberté, les libertés individuelles comme les libertés collectives. Autrement dit, résister à l'oppression, c'est, toujours pour définir ou pour raisonner sur la définition que je viens de vous donner, c'est également tenter de préserver quelque chose. Autrement dit, on rentre en résistance parce qu'on estime que quelque chose qui nous caractérise en propre est à préserver, à défendre, à restaurer, à reconstruire. Et que donc, dans l'action même de la résistance, il y a cette vocation, cette intention de préserver des libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives, ou, si vous me permettez l'expression un petit peu anticipée, de préserver ce que les libéraux du 18e et du 19e siècle appelleront des droits naturels, entre guillemets, c'est-à-dire des droits qui définissent en propre ce qui fait le sujet humain, en tant qu'il est doté de capacités et de liberté. On voit donc ici apparaître une dimension de la résistance qui est tout à fait intéressante, en tout cas pour mon propos, c'est qu'elle implique quelque chose qui va se situer évidemment sur le plan de l'espace politique. Si l'on admet que définir la sphère de l'individualité comme étant caractérisée par des droits naturels que l'on doit pouvoir revendiquer, c'est quelque chose qui relève de la politique. Et évidemment ici, je pense que ça n'est pas un scoop et que vous l'aviez tout à fait compris, ce qui va m'intéresser dans les questions de la résistance, c'est ce qu'elle implique, cette question de la résistance, pour comprendre ce qui fait notre condition de coexistence politique. Donc j'aurai l'occasion de revenir sur ce point tout à l'heure. Je poursuis mon commentaire je vais maintenant essayer de discuter sur les deux exemples qui sont donnés par le dictionnaire. Vous allez voir que c'est intéressant, là aussi, de s'arrêter un petit peu là-dessus. Premier exemple, c'est celui du ministre. Le pauvre, ben voilà, il voulait faire passer un projet et puis il se rend compte que le rapport des forces, voilà, j'utilise le terme, le rapport des forces n'est pas tout à fait, ne lui est pas tout à fait favorable et que d'une certaine manière, il est obligé de se démettre. Alors, il me semble ici que le fait de parler de résistance est une manière un petit peu forte pour désigner quelque chose qui est relativement ordinaire et qui renvoie plus à la configuration des rapports de force dans une organisation, qu'elle soit un conseil des ministres, qu'elle soit un comité de direction d'un syndicat ou d'un parti politique. Mais il me semble qu'on pourrait remplacer ici le terme de résister par le terme de contradiction, par le terme de rapport des forces, par le terme d'opposition, beaucoup plus que le terme propre de résistance auquel il me semble on doit s'attacher à donner un sens plus fort, plus déterminé. Donc, je dirais que là, pour le coup, je serais en léger désaccord avec le dictionnaire de la langue française, ou alors je dirais simplement que l'usage qui est fait ici du terme de résistance est un usage faible. Par rapport à l'exemple qui suit, qui là, en revanche, me semble être un exemple beaucoup plus fort. Et c'est celui-ci que je vais maintenant discuter. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans l'exemple de l'attitude du roi Philippe le Bel ? Je relis la définition parce qu'elle est importante. Il y a un terme notamment sur lequel je vais insister beaucoup. Nobles, bourgeois, clergés même, tous approuvèrent la résistance de Philippe le Bel au pape. Le roi de France ne reconnaissait point de supérieur sur la terre. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, je vais donner quelques éléments de contexte pour que vous compreniez bien l'exemple qui est ici donné. Et ensuite, je vais commenter et vous allez voir qu'on peut tirer un certain nombre de conséquences pour le propos que je voudrais tenir devant vous. Alors, tout d'abord, je rappelle que Philippe le Bel... c'est 1268-1314, on est au tournant du XIIIe et du XIVe siècle, on est encore dans la période qui va précéder le grand siècle de transition et qui est là un siècle ou une époque de grande mutation sur la constitution des institutions étatiques. D'une certaine manière, cette période du règne du roi Philippe le Bel va correspondre à une intense conflictualité entre deux institutions qui vont représenter deux manières de concevoir l'organisation de la vie sur Terre, le pouvoir théologique via le pape et son empire, et le pouvoir politique via le roi et son empire. Alors, cette manière de considérer les relations entre ce qu'on appelle le théologique et le politique, on lui a donné un nom qui s'appelle la question théologico-politique. Alors, il faut quand même savoir qu'à cette époque-là, vous avez d'un côté des royaumes qui sont en train de se construire, de se consolider, le royaume de France, celui d'Angleterre, mais vous avez aussi des empires. Alors, exemple d'empire, le Saint-Empire romain germanique, qui est fondé à la fin du Xe siècle, et qui est d'ailleurs fondé par le pape qui sacre le premier grand empereur du Saint-Empire romain germanique, qui s'appelle Othon le Grand, et qui est sacré par le pape en récompense des services que ce dignitaire a rendus à la papauté, notamment en débarrassant les états pontificaux de l'envahisseur hongrois. Autrement dit, d'une certaine manière, à cette époque-là, pour être roi, et pour pouvoir exercer pleinement sa fonction royale, il fallait être sacré par le pape. D'une certaine manière, c'est le pape qui, en tant qu'il était représentant de Dieu sur terre, achevait en quelque sorte de légitimer la prérogative royale en lui donnant l'onction sacrée. Alors, il y a toute une histoire extrêmement passionnante qui tourne autour de la naissance des sacres royaux et comment cette habitude va consolider d'une certaine manière le pouvoir ou la prérogative papale à l'égard des rois. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe à la fin du XIIIe siècle, dans ce tournant tout à fait majeur pour l'histoire de notre modernité politique, c'est qu'on assiste progressivement à un conflit. À un conflit de légitimité entre deux prétendants à représenter sur terre Dieu. D'un côté, le pape, et l'histoire de la constitution des états pontificaux ici, qui ne m'intéresse pas et que je ne vais pas évoquer, est là pour le dire, Le pape représente, en tant qu'il est sur le trône de Saint-Pierre, l'Église universelle et donc le pouvoir spirituel, là où les rois et les empereurs sont censés représenter aussi Dieu, mais dans l'exercice d'une fonction beaucoup plus terrestre, si je puis dire, beaucoup plus terre à terre, qui est celle, évidemment, du gouvernement des âmes, ici-bas, sur terre, dans les royaumes. Que nous dit la citation du dictionnaire? Je la relis encore une fois, vous allez voir qu'elle est importante. Le roi de France ne reconnaissait, et je souligne le verbe reconnaître, point de supérieur sur la terre. Ce qui veut donc dire que le roi de France, Philippe le Bel, va chercher à s'imposer dans un conflit qui va l'opposer au pape, qui est un conflit de reconnaissance, un conflit de légitimité, qui vise à refuser, en quelque sorte, de céder aux injonctions du pape, au motif que lui aussi, en tant que roi, est un représentant direct de Dieu sur la terre, et qu'il ne doit recevoir ces injonctions que de Dieu directement. On voit donc ici s'amorcer un conflit qu'on pourrait, pour utiliser un terme tout à fait caractéristique, un conflit de représentation ou un conflit de légitimité. Alors quand même, juste une petite parenthèse pour vous expliquer que les choses ne sont pas aussi spirituelles qu'elles paraissent, c'est que derrière ce conflit entre le pape et le roi, il y a des enjeux économiques et matériels extraordinairement importants. Et il ne faut pas oublier que c'est le pape qui nomme les évêques, les cardinaux. Et que les évêchés, les grandes prérogatives qui sont attachées aux fonctions des hauts dignitaires du clergé sont des prébendes qui rapportent des droits de prélever l'impôt et des revenus tout à fait considérables. Des revenus tout à fait considérables qui, en quelque sorte, vont directement dans les caisses pontificales et qui donc échappent, en quelque sorte, au contrôle du roi. Et que donc, derrière la question du conflit des reconnaissances entre le pouvoir royal et le pouvoir papal, se jouent aussi des questions extrêmement matérielles. Et qui se jouent non seulement des questions matérielles, mais aussi des questions juridiques. Puisque vous savez qu'il y avait deux types de justice, et que là aussi, la conflictualité entre l'Église, le pape d'un côté et le roi, c'était aussi des capacités à faire jouer des conflits, des tensions entre deux types de justice, la justice séculière et la justice ecclésiale. Quoi qu'il en soit, on voit bien donc derrière cette histoire que lorsque Philippe le Bel dit qu'il ne reconnaît point de supérieur sur terre, cela veut donc dire qu'il déclare l'autorité du pape illégitime à son encontre. On a donc bien ici quelque chose qui apparaît comme un geste de résistance tout à fait considérable, un geste de résistance qui d'ailleurs va nourrir des conflits qui vont s'étaler sur plusieurs siècles, et ça n'est pas ici le lieu d'en raconter l'histoire. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer de cet exemple pour définir les termes de mon sujet. Alors, là aussi, dans cet exemple, on voit premièrement qu'on a affaire à un système. Un système qui contient ou qui comporte plusieurs acteurs. D'un côté, le roi. Et derrière le roi, c'est clair. Je vous rappelle que ce qui approuve la résistance du roi Philippe le Bel, c'est l'aristocratie, le clergé, future église gallicane, donc le clergé, les bourgeois, les nobles, etc., etc. Donc on a d'un côté un système, à l'intérieur du système, ceux qui vont résister, ou ceux qui vont approuver la résistance, et de l'autre côté, on a évidemment le pape qui va s'efforcer de restaurer sa puissance significativement empêché. Donc on voit bien ici apparaître, à la fois sur le plan symbolique et sur le plan réel, eh bien, ces deux forces qui vont s'exercer en sens contraire. L'une qu'on va appeler la force de résistance, ou qu'on peut appeler aussi cette capacité de désobéissance, et de l'autre, une force de contrainte qui cherche à imposer par la menace de l'excommunication, par la menace de tout un ensemble de conséquences, à la fois symboliques et réelles, et qui est celle du pape. Autrement dit, on voit bien ici, dans cet exemple, comment le rapport des forces, eh bien, nourrit, en quelque sorte, deux conduites opposées, d'agression et de résistance. Alors, qu'est-ce que tout ceci nous apporte pour la définition de mon problème? Il me semble que ça peut nous permettre de dire plusieurs choses. Premièrement, les résistances dont je vais parler relèvent de certaines situations de conflit. Des situations de conflit qui engagent des acteurs politiques où la question de l'obéissance ou de la résistance n'est pas sans conséquence. Il faut quand même savoir que lorsqu'on résiste, et je vais en parler dans très peu de temps, résister c'est aussi exposer sa vie. C'est pas simplement la conflictualité qui va opposer ici le pape et le roi, c'est que derrière le pape et le roi, il y a des armées, il y a des conflits, il y a des guerres, il y a des rapines, il y a des violences. Donc, parler de résistance ici, je me situe à un niveau d'abstraction qui est élevé, mais il ne faut jamais perdre de vue, effectivement, ce que ça implique sur un plan plus réel, sur un plan plus humain. Ça, c'est le premier point. Donc, des formes de conflits qui peuvent être, dans leurs conséquences, extrêmement lourdes. Mais il y a encore autre chose. Lorsque le roi Philippe le Bel, ici, résiste au pape, il ne le fait pas sans raison. Et c'est ça qui va m'intéresser. C'est-à-dire que le roi, il ne va pas simplement se contenter de dire « that's it, c'est bon, ça suffit, on arrête là ». Il va déployer tout un ensemble de discours de justification. Il va rentrer, et c'est une époque extrêmement passionnante pour les historiens, et notamment pour les historiens du droit, parce que c'est l'époque où, en quelque sorte, le roi va enrôler à son service les juristes, les légistes, qui vont être sommés, en quelque sorte, d'élaborer des théories juridiques qui vont venir appuyer les prétentions du roi contre celles du pape. Autrement dit, ce qui est ici important, et c'est ce qui va m'intéresser dans la manière dont je vais vous raconter l'histoire des résistances, c'est pas simplement l'acte lui-même, c'est pas simplement le fait de la résistance, c'est également le discours qui l'accompagne. Le discours qui peut être une théorie très élaborée ou qui peuvent être des discours, quoi qu'il en soit, comme si, d'une certaine manière, la conduite d'opposition pour pouvoir exister et perdurer devait se soutenir d'un ensemble de représentations, d'éléments discursifs, d'argumentations qui vont venir, en quelque sorte, donner les bonnes raisons à cette conduite qui est une conduite de rupture. Autrement dit, ici, ce qui est intéressant, c'est que Philippe le Bel, toujours pour reprendre cet exemple un peu topique, Philippe le Bel, il ne va pas se contenter de résister, il va dire pourquoi il résiste. Et dire pourquoi il résiste, c'est notamment s'efforcer, au moins sur le plan théorique, sur le plan idéologique, de dire que cette conduite qui consiste à ne plus accepter de respecter l'autorité du pape, au moins dans ces domaines-là, eh bien cette conduite, elle est légitime. Ce qui veut dire qu'elle est peut-être illégale du point de vue du droit, mais qu'elle est légitime du point de vue moral ou du point de vue éthique. D'une certaine façon, la résistance, elle va ici être l'occasion de déployer un discours de légitimation, c'est-à-dire de donner les raisons qui vont justifier la bonne cause de la conduite de rupture. Alors voyez-vous, là, le problème devient plus intéressant, plus excitant et plus compliqué. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, la résistance, elle n'est pas légale, puisqu'à un moment donné, je décide de ne plus céder à une pression. Donc, j'introduis une sorte de rupture, une sorte de coupure. Et, à partir de là, je vais essayer d'expliquer dans mon discours pourquoi cette rupture, eh bien, elle est justifiable. Donc, je vais essayer d'élaborer un système qui restaure, en quelque sorte, la légitimité de ma conduite, qui lui donne des raisons, qui la fonde en droit, sinon en principe. Donc, il me semble, voyez-vous, c'est en tout cas ce qui m'intéressera dans la manière d'aborder la question dans les séances suivantes, c'est qu'on ne peut pas raisonner, on ne peut pas discuter des théories de la résistance et des théories de la désobéissance, parce que qui dit résister dit à un moment donné désobéir, c'est-à-dire transgresser. L'acte de résistance est toujours quelque part un acte de transgression. Mais ce qui est intéressant ici, c'est pas l'attitude de rupture en tant que telle, c'est la manière dont cette rupture va être, à son tour, requalifiée comme une conduite parfaitement légitime. Autrement dit, et c'est pour ça qu'on va parler des théories du droit de la résistance, ou des théories de la résistance, ou des théories d'obéissance ou de la désobéissance, il s'agit bien ici de comprendre en quoi la résistance, dans ce schéma ou dans cet espace politique, n'est pas simplement une conduite de rupture, mais qu'elle est une conduite d'innovation, une conduite de transformation, une conduite qui va nous permettre justement de penser les termes d'un nouvel équilibre. Et de ce point de vue-là, au lieu de comprendre la résistance simplement comme une attitude de retrait, comme quelque chose qui est défensif, on peut aussi essayer de comprendre que la résistance est quelque chose, non pas simplement d'offensif, mais d'inventif. Il y a donc ici, et c'est pour ça que je les ai retenus, vous doutez bien que ce n'est pas tout à fait par hasard, à travers l'analyse des conduites de résistance et des discours sur la justification de ces résistances, un pôle d'observation possible sur l'histoire des transformations des régimes politiques. Et il me semble qu'ici, on a quelque chose hein, qui caractérise de façon tout à fait remarquable une dimension politique la conduite de résistance. Alors, on voit bien ici que notre système, celui duquel j'étais parti il y a quelques moments, est en train de se complexifier de plus en plus. Non seulement il n'est pas simplement question de force et de contre-force, il n'est pas simplement question de violence et de désobéissance, il est aussi question de discours, il est aussi question d'énoncés, il est aussi question de justification, et autant d'éléments symboliques, argumentatifs, qui vont devenir des véritables moyens de mobilisation. Il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, lorsque Philippe Lebel va enrôler à sa suite, et il ne sera pas le seul, d'autres après lui le feront également, les clercs et les juristes, c'est parce que cette construction de la justification, elle a un effet performatif, elle a un effet de réel, elle va progressivement contribuer là aussi, à côté et avec les actes, à instaurer une nouvelle représentation de ce que doit être évidemment le royaume et la place du roi dans ce dispositif général. Autrement dit, ce qui est intéressant ici, c'est que la justification discursive, elle est également un élément à prendre en considération si on veut rendre compte de la totalité du système que représentent les éléments de résistance et de contre-résistance. Alors, je me permets juste de vous donner un exemple que j'emprunte à l'actualité très chaude, et ça, j'aime pas trop le faire, mais il me semble que cet exemple est suffisamment probant. Si vous vous intéressez un petit peu à l'actualité au Moyen-Orient, notamment en Syrie, ce qui est intéressant, c'est de regarder de près quel est le vocabulaire et le champ lexical qui est employé par les différents acteurs du conflit. Et vous allez voir que ce champ lexical, qui est celui du terrorisme et du soutien international d'un côté et celui de la guerre civile de l'autre sont des champs lexicaux qui ne sont pas neutres du tout, mais qui visent tous deux à requalifier une situation dans les termes qui peuvent rendre légitimes les actions des uns et des autres. Et le dernier discours de Bachar al-Assad est un exemple tout à fait typique de la requalification d'une situation à travers un vocabulaire qui est celui qui vise à rendre compte et à fonder en droit une pratique qui est évidemment une pratique barbare. Bref, je veux simplement signifier par là, et je ferme avec cette parenthèse, cette idée tout à fait fondamentale que la résistance, en tant qu'elle est une situation politique de rupture, mobilise sur le plan symbolique et sur le plan discursif, eh bien, des formes d'énoncés de justification et de légitimation. Et c'est évidemment ces énoncés-là qui vont m'intéresser, moi, pour des raisons que vous comprendrez tout à fait progressivement dans la suite de cet exposé. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est évidemment de rendre compte de quelques-unes des manières dont on a pu, au gré des circonstances, je reviendrai sur ce point bientôt, des manières dont on a pu justifier des conduites déstabilisatrices, des conduites de rupture, qu'on peut appeler des conduites de désobéissance. L'exemple que j'ai choisi ici, et qui était tiré de la définition du dictionnaire du Trésor de la langue française, est un exemple un peu qui fonctionne très bien, si je puis dire, mais qui se situe à un niveau très particulier d'analyse et de hauteur, puisqu'il engage d'un côté le représentant d'un royaume et de l'autre le représentant d'un autre royaume. On pourrait dire, pour utiliser des termes qui ne sont pas du tout anachroniques, qu'on a affaire ici à un exemple qui se situe à un niveau des relations internationales. Et que donc, on va peut-être essayer de prendre des exemples, en tout cas, c'est pas peut-être, je vais prendre des exemples beaucoup plus modestes, en tout cas dans leur hauteur, puisqu'ils vont concerner pour la plupart les relations qui existent entre le monarque et ses sujets. Autrement dit, je vais descendre d'un palier, si je puis dire, pour essayer d'appliquer, toutes choses égales par ailleurs, exactement ce principe qui oppose le roi et le pape, et pour voir ce que ça fait lorsqu'on s'intéresse évidemment au rapport des rois avec, ou des souverains, pour utiliser un terme plus large, avec leur peuple, entre guillemets, de sujets. Donc, et je termine sur cette discussion de la définition telle que nous l'a donnée ici le Trésor de la langue française, ce qui risque de m'intéresser, c'est évidemment de comprendre comment se pose la question de la résistance et de la désobéissance lorsqu'on va non plus l'envisager à un niveau inter-royaume et international, mais à un niveau interne, c'est-à-dire à l'intérieur même d'un royaume. Et lorsque, évidemment, voyez tout de suite où les choses peuvent en venir, lorsque c'est la légitimité même de la conduite du souverain qui se trouve remise en cause. Alors, à partir de ce travail un peu de définition préliminaire que j'ai fait sur le dictionnaire du Trésor de la langue française, je crois qu'on va pouvoir maintenant généraliser et mettre en place les termes de mon problème. D'abord, première remarque, on peut dire que, et vous l'avez compris, on pourrait tout à fait proposer une histoire politique des sociétés occidentales à travers les théories et les discours qui se sont efforcés de justifier le caractère légitime des actes de résistance. Je prends encore un exemple qui est peut-être plus parlant. Si on s'intéresse à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, on voit bien, et les historiens maintenant nous l'ont, je crois, bien montré, que le développement progressif de la résistance, et là j'utilise le terme dans son caractère figé, au sens où ça renvoie précisément à une histoire de la manière dont on va progressivement essayer de s'opposer à l'occupant, et bien cette histoire de la résistance, elle n'est pas simplement faite d'acteurs, elle n'est pas simplement faite d'actions et d'événements, elle est aussi l'occasion de discours. Alors on peut prendre l'histoire dans le sens opposé, c'est-à-dire s'intéresser à la manière dont les puissances d'occupation ou les puissances de gouvernement ont cherché à disqualifier la résistance, c'est-à-dire à la délégitimer aux yeux de celles et ceux qui n'étaient pas directement impliqués dans la résistance. Mais vous voyez bien ici que c'est une autre façon d'écrire la même histoire, c'est-à-dire d'essayer de comprendre en quelle manière l'action ou l'acte même de résister à l'occupant ou à celui qui contraint ou qui restreint les libertés, c'est pas quelque chose qui se limite simplement à des actions en tant que telles, mais qui renvoie aussi à un travail de justification, de qualification, de représentation. Deuxième élément, toujours dans le problème, et là, je franchis un cap supplémentaire dans la complexité de la question que je pose. Au fond, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, des sujets, un peuple ou des fractions de ce peuple rentrent en résistance? Alors, la réponse à cette question, elle est évidemment pas évidente. Et je ne vous demande pas de me donner une réponse, je serais bien incapable de vous la donner. Mais il me semble quand même qu'il y a un élément de réponse qui est très important, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui a été rompu ou qui a été une limite qui a été transgressée. Autrement dit, la question de la résistance, elle renvoie aussi à la qualification d'un rapport qui unit le souverain avec son peuple. Alors, au XVIe siècle, au temps des guerres de religion, j'en reparlerai la semaine prochaine, ce qui relie le souverain à son peuple, c'est ce qui s'appelle une alliance. Et le terme d'alliance n'est pas emprunté tout à fait innocemment au vocabulaire sacré des textes vétérotestamentaires. Il est aussi la signification qu'entre le peuple et le souverain, il y a une sorte de pacte. Et que ce pacte, cette alliance, enveloppe de part et d'autre des contraintes, des devoirs, des droits. Et que peut-être, lorsque ces éléments sont perturbés, sont rompus, sont outrepassés, lorsque le roi devient tyran, pour utiliser une expression qu'on retrouvera la semaine prochaine, eh bien, à ce moment-là, il y a comme une attitude de réaction qui va se déployer et qui va exprimer justement cette transgression de l'alliance ou du pacte. Derrière ce vocabulaire que j'utilise de façon encore très 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 large, eh bien, il y a quelque chose qui va se déployer progressivement dans l'espace et dans le temps et qui va figurer sous un terme que vous connaissez, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'employer ce vocabulaire, c'est celui de contrat. D'une certaine manière, dans le travail de légitimation de la conduite de désobéissance, il y a cette idée que le monarque ou le souverain, quel qu'il soit, que ce soit un roi ou une assemblée, peu importe ici, a transgressé ou n'a pas respecté sa parole, ou plus précisément n'a pas respecté les devoirs de sa charge. Et que donc, pour cette raison, ou pour ces raisons, le peuple est légitimé à entrer en résistance. C'est exactement ce que dira John Locke à la fin du XVIIe siècle, lorsqu'il défendra la possibilité d'un droit légitime à résister contre le souverain devenu tyrannique. Mais là, on est à la fin de l'histoire. On est à la fin d'une histoire. Moi, cette histoire, je vais la reprendre beaucoup plus en amont. Et vous allez voir qu'elle est intéressante. En tout cas, elle me semble intéressante pour comprendre justement comment se mettent en place certaines de nos catégories politiques contemporaines même. Donc, pour revenir à l'énoncé de mon problème, il n'y a pas simplement le fait que la résistance implique un système, des acteurs qui sont situés, positionnés dans un espace de pouvoir. Il n'y a pas simplement le fait que résister suppose, parce que c'est une conduite de rupture, des discours de justification et de légitimation. Il y a aussi le fait que dans ce système à deux catégories d'acteurs, il y a des formes de liens plus ou moins implicites, plus ou moins explicites, qui engagent réciproquement dans des devoirs et des droits les acteurs de ce système, le magistrat et le peuple. Donc d'une certaine manière, c'est que les discours qui vont chercher à justifier pourquoi je rentre en résistance en tant que sujet du roi ou en tant que sujet membre d'un royaume sont des discours qui vont chercher justement à expliquer ce que sont ses droits et ses devoirs et comment ses droits et ses devoirs ont été en quelque sorte non respectés, transgressés, bafoués. Donc d'une certaine manière, le discours sur la résistance est un discours qui va permettre de mettre au jour ce qui unit ou ce qui oppose un magistrat et un peuple. Et c'est, me semble-t-il, cette dimension-là qui va incontestablement jouer un rôle très important à partir du XVIe, XVIIe siècle et jusqu'au début du XIXe siècle. Après, la morphologie, si je puis dire, des discours sur la résistance va se transformer. Je ne ferai que l'esquisser, mais ça ne sera plus tout à fait mon propos. Donc voyez, là encore, mon problème commence à prendre une forme assez compliquée, mais qui, me semble-t-il, le rend intéressant à explorer du point de vue historique dans la période qui est celle que je retenais, qui est la période des grandes révolutions. Hein. 17e, 18e siècle, on peut considérer que le 17e siècle se construit en quelque sorte sur les décombres d'un siècle qui l'a précédé, qui est un siècle de guerre de religion, hein, qui là aussi, sur le plan institutionnel et sur le plan théorique, est source d'une créativité et d'une complexité juridique tout à fait impressionnante, mais qui met en place les bases à partir desquelles vont s'organiser les grandes résistances que sont les guerres de rébellion et les guerres civiles du XVIIe siècle en Angleterre, mais évidemment aussi au XVIIIe siècle en France et en Amérique. On a donc ici un champ historique à explorer, que je n'explorerai pas parce que c'est un programme beaucoup trop vaste pour la petite série de conférences que j'ai à prononcer, mais disons que, en tout cas, il me semble qu'on a là quelque chose comme un espace temporel, hein, je dis bien espace temporel, c'est-à-dire à la fois une cartographie et une période qui vont permettre de comprendre comment se mettent en place les premiers grands discours modernes sur la résistance et la désobéissance. Il me reste encore, et j'aurai à peu près terminé sur cette étude des enjeux d'une réflexion sur la théorie de la résistance, à expliquer peut-être un terme qui peut apparaître un peu paradoxal, c'est celui de droit de résister. Parce que si vous reprenez le titre que j'ai donné à cette série de conférences, je le relis parce qu'il me semble important, c'est « Qu'est-ce que résister ? Point d'interrogation, histoire du droit de résistance au XVIIe et XVIIIe siècle. » Alors évidemment, il y a quelque chose comme une sorte de contradiction entre ces deux termes, puisque la plupart du temps, la résistance, elle est quelque chose qui se construit dans une situation de fait, qui caractérise des rapports de force et qui, la plupart du temps, transgresse le droit. C'est-à-dire est en rupture avec le fonctionnement ordinaire des rapports entre les institutions et les membres qui constituent le corps du royaume. Donc, pourquoi parler du droit de résistance ? Ben, tout simplement parce que cette histoire des théories de la résistance, c'est aussi progressivement l'histoire d'une justification de l'action de résister comme étant l'expression d'une liberté et comme relevant d'un droit inaliénable. Autrement dit, Oui, il y a bien quelque chose comme un paradoxe, comme une tension entre le fait de parler de droit et le fait de résister. Mais c'est le sens de cette évolution des théories de résistance que d'aller vers une reconnaissance progressive et chaotique, on aura l'occasion d'en reparler, d'aller vers une reconnaissance progressive de ce qui va constituer un des éléments du droit naturel humain tel que la tradition libérale moderne le définit. Donc, pour achever d'éclairer cette expression de droit de résistance, je désigne par là le terme d'une histoire où la résistance, dans son principe, n'est plus considérée comme une conduite transgressive, mais comme quelque chose qui peut participer d'un fonctionnement d'un système politique. Et d'une certaine façon, pour anticiper sur ce que sera la dernière séance de cette histoire que je vais vous raconter, vous savez que j'aime bien raconter des histoires, eh bien c'est comment est-ce qu'on pourrait comprendre aujourd'hui la manière dont se rapportent des comportements de protestation avec les questions de la résistance. Et il me semble que là, eh bien justement, cette émergence et ce développement des formes de protestation extrêmement variées, parce qu'on s'intéresse à l'histoire de la vie politique au XXe siècle, montre que l'usage, le recours à la possibilité d'une protestation, c'est-à-dire d'une conduite qui n'est pas directement inscrite dans les termes d'une législation, mais qui reste malgré tout acceptée et reconnue comme légitime, eh bien, elle a quelque chose à voir avec les fameux droits de la résistance que théorisaient nos chers prédécesseurs. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur la question. Alors, je vais juste, pour conclure sur cette première étape de la discussion, faire une toute petite synthèse, et ensuite, eh bien, je vous laisserai la parole pour sacrifier très positivement au jeu des questions-réponses. Donc, comme vous l'avez compris, mon propos s'efforcera, autant que je l'ai indiqué aujourd'hui, de distinguer ce qui relève de la résistance politique, puisque c'est celle-ci qui va m'intéresser, qui va évidemment se distinguer des situations de conflit en général. Et si la résistance est bien une forme de conflit, elle implique toujours, pour ce qui m'intéresse, un certain type d'acteur, et surtout, un certain type de raison. Donc, la résistance dont je vais parler, elle a à voir avec les questions de légitimité, de légitimation, par les autorités politiques constituées. Deuxièmement, à travers ces questions, il ne s'agira pas simplement de revenir sur le couple résistance-obéissance ou désobéissance-soumission. Il s'agira de comprendre qu'il s'agit là d'attitudes de rupture qui sont en même temps des conduites de transformation, d'innovation. C'est donc ce rapport entre résistance, justification et transformation qui m'intéressera. Et c'est la raison pour laquelle je vais évidemment m'intéresser à une période historique où ces discours sont extrêmement mobiles, vont se transformer très vite et qui sont évidemment les périodes que j'indiquais dans le titre même de cet ensemble d'exposés, à savoir le 17e et le 18e. Voilà, je vous remercie.